armando un fallo casero oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, j'ai été libre de combattre au Casangas. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la crise de maîtrise du vent, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Capi qui vous propose parole aux auditeurs, votre espace d'échange et de partage. Le 19 août de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de l'aide humanitaire. Une journée instaurée par l'ONU pour sensibiliser l'opinion publique à l'assistance humanitaire et à la nécessité de soutenir ses actions partout dans le monde. Selon le bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA en RDC, près de 7,5 millions de personnes, 9% de la population du pays, ont besoin d'assistance humanitaire et de protection cette année. Quels sont, selon vous, les préalables pour arriver à assister d'une manière efficace des millions de personnes? Rejoignez-nous au 081-890-6340 pour une intervention en direct. Une équipe doit assurer la mise en onde de ce magazine réalisé par Marcel Ngombombala et Pierrot, et la Mégie est devant ce micro pour vous le présenter sous la supervision de Julien Yamouni, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kevin Couté sur Radio Capi.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Au cours de ces 25 dernières années, le monde a assisté à un accroissement sans précédent du nombre des crises humanitaires. Selon des études faites par OCHA, en juin 2015, à la mi-2015, près de 79 millions de personnes dans 37 pays ont besoin d'une aide humanitaire. Les raisons de l'ampleur de cette crise sont dues aux nombreux conflits politiques, aux catastrophes naturelles et à une certaine fragilité économique. Alors, en RDC, où près de 7 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire et protection cette année, que faut-il faire d'une manière plus efficace pour arriver à assister de ces personnes? C'est la question au centre de notre échange. Rappelons quand même que le plan d'aide humanitaire 2016 qui a été validé cette année par OCHA, ici en RDC, nécessite près de 690 millions de dollars américains pour y arriver. Alors comment et quels sont les préalables pour arriver à assister à toutes ces personnes? Vous êtes nombreux à commenter ce sujet dans ces débats qui se déroulent sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Alors en direct, nous avons Bintou qui nous appelle de Kinshasa dans les Congo central. Bintou, bonjour et bienvenue dans cet échange.
Bonjour M. Pierrot, bonjour à tous les auditeurs et merci beaucoup de m'avoir passé la parole.
Alors comment d'une manière plus efficace on peut arriver à assister des personnes qui sont dans le besoin humanitaire ici dans notre pays?
Merci beaucoup, merci beaucoup Pierrot. Permettez à ce que nous puissions d'abord présenter les condoléances et plus adresser à toutes les personnes qui ont perdu les leurs dans les territoires de Bénin et dans la ville de Syrie et qui ont besoin certainement de cette assistance aujourd'hui. Bon, comment arriver à assister des millions de personnes qui ont besoin de l'assistance pendant cette période? Vous avez dit que ces 25 dernières années, et principalement l'humanité a besoin de l'aide, beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des conflits principalement, comme le cas de notre pays. Nous avons certainement besoin que ces personnes-là soient assistées. Nous avons des déplacés internes et des réfugiés qui se trouvent dans plusieurs pays à travers le monde qui quittent la RDC à cause de l'insécurité ou de la guerre qu'ils sont en train de fuir. Mais les Nations Unies doivent s'attaquer aux causes et non aux conséquences. Parmi les causes qui amènent les humains à se retrouver dans la situation d'assistance permanente, il y a d'abord la pauvreté et les conflits armés. certains pouvoirs aussi qui ne respectent pas leur population, qui les maltraitent, qui amènent ces populations-là à quitter leurs milliers d'origine pour aller se retrouver ailleurs et avoir besoin de cette assistance-là. Alors, il faut aussi noter les calamités naturelles qui peuvent aussi être à la base des déplacements des populations et des changements climatiques. Mais pour revenir à la situation, comment arriver à ce que l'aide-là puisse arriver nécessairement aux nécessités? Il faut que les personnes d'abord qui sont censées distribuer cette aide, qu'ils aient la conscience. Puisque, vous savez, si vous regardez dans la ville de Kinshasa, il n'y a pas longtemps, la Belgique avait distribué les manuels scolaires pour les enfants. Et ces manuels-là se sont retournés écrits même là-bas à ne pas vendre. Mais malheureusement, ces manuels-là se retrouvent sur les marchés, on est en train de les vendre. Vous voyez que l'aide n'est pas arrivée nécessairement aux personnes concernées et les gens n'ont pas respecté, ils n'ont pas la conscience de respecter l'aide humanitaire.
Alors, Bintou, vous avez relevé d'abord la pauvreté et les conflits qui font que beaucoup de gens se retrouvent en situation de nécessité. Ça, c'est d'une manière préventive. Mais dès lors qu'on est déjà engagé aujourd'hui, si vous avez suivi aujourd'hui Radio Okapi, l'envoyé spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, RDC, chargé des questions humanitaires, a beaucoup salué la solidarité. Mais rappelons quand même que l'aide humanitaire a été toujours basée sur la solidarité de peuple, parce que plusieurs personnes sont déplacés, mais nombreux vivent dans des familles d'accueil. Est-ce que dans ces conditions, au-delà du fait qu'il faut que ceux qui sont dans le besoin reçoivent les aides qui viennent de l'extérieur, il y a moyen de pouvoir développer dans chaque pays une dynamique interne comme en RDC, où déjà on peut cultiver cela dans le comportement de tous les jours, qu'on peut arriver soi-même à s'aider, à se prendre en charge en cas de besoin d'assistance?
Mais oui, bon, merci beaucoup, M. Zéro. Mais vous savez, nous encourageons d'abord, c'est la solidarité africaine, vous savez, la population africaine et congolaise en général, nous sommes très solidaires entre nous. Et s'il y a des problèmes, comme par exemple ce qui se passe à Bénin actuellement, la plupart des familles se retrouvent toujours dans une famille d'accueil. Et cette population-là, il faut résoudre l'aide, nous allons les aider effectivement, mais il faut résoudre la question pour laquelle la personne se retrouve sur la rue et a besoin de l'assistance, ça veut dire la sécurité. Si nous donnons à cette population la sécurité, elle pourra se prendre elle-même en charge et se nourrir. Mais nous profitons de votre micro pour encourager la population de Sibu qui est en train de collecter quelque chose pour la population de Beni, afin de les assister. Et c'est une solidarité que l'ensemble de la République doit avoir envers cette population qui est meurtrie. Aujourd'hui, c'est bientôt c'est la rentrée scolaire. Et ces enfants-là, qui se sont déplacés, ont besoin de l'aide pour aller à l'école. Ils ont besoin de quoi se nourrir et de quoi se vêtir, puisqu'ils ont abandonné leur milieu. C'est il faut que toutes nos provinces, que nous arrivions à faire quelque chose pour assister la population de Beni, mais principalement la plus grande nourriture que nous devons leur donner, c'est la paix et la sécurité pour qu'ils puissent être en mesure de se prendre en charge eux-mêmes.
Merci beaucoup, Bintou. Vous avez salué le courage et l'initiative dans la province du Sud Kivu, où des dons sont collectés pour assister les compatriotes qui sont en difficulté à Beni. Vous estimez que ça pouvait être fait ainsi à travers le pays, mais le grand besoin aujourd'hui pour toutes ces personnes qui se déplacent, c'est la sécurité, c'est la paix. Là, il faut agir en amont dans la prévention. Je crois que c'est dans cette optique aussi que Trésor nous a écrit sur la page Facebook, et nous sommes avec lui en direct dans ses magazines à partir de Kinshasa. Et Trésor, vous avez dit le problème aujourd'hui, c'est que les gens ont besoin, c'est pas de l'aide humanitaire, mais c'est plutôt de la paix. Si les gens sont en paix, on n'aura pas besoin de pouvoir les assister, ils n'auront pas besoin de se déplacer. Trésor, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour Monsieur Pierrot. Je vous remercie de m'avoir accordé la parole encore pour la énième fois dans votre mission. Comme je disais, je vais prendre la parole directement. Comme je disais,
oui, allez-y.
Oui, comme je disais, les Congolais aujourd'hui, parce que bien sûr que l'aide humanitaire c'est très important au moins pour assister toute la population au moins qui se retrouve à cas de conflits également, pas seulement les conflits des guerres, mais sinon également des conflits permanents, des problèmes qui sont liés à à des obstacles naturels qui peuvent également toucher certains coins du pays. Mais sinon, moi, j'ai été en train de voir tout simplement qu'il ne faut pas seulement s'attaquer au moins il faut s'attaquer beaucoup plus aux causes de ces problèmes. Qu'est-ce qui pousse au moins que les gens puissent se retrouver dans telles conditions, qu'ils puissent avoir au moins besoin de l'aide humanitaire? Parce qu'aujourd'hui, on voit de l'aide qui arrive et puis les différentes organisations internationales humanitaires qui interviennent, qui arrivent au moins à seconder. Est-ce que ces gens peuvent continuer toujours à nous apporter cette aide, ou alors ça sera une manière au moins de permettre à ce que cette population puisse retrouver une paix et puisse retrouver un calme et trouver du travail pour que cette population puisse au moins s'engager à se prendre en charge et à être indépendant. Je voulais rappeler l'histoire parce que aujourd'hui, on peut se dire que c'est les Congolais, j'ai suivi au moins le représentant de Oshoa. Plus tard ce matin, sur les ondes de la RFI, qui disait au moins qu'il appréciait les Congolais par rapport à leur accueil, leur esprit d'accueil, ils savent au moins être beaucoup plus, ils sont prêts à accueillir les autres et qui se retrouvent dans des difficultés, tout ça. Mais j'ai regretté de cette déclaration parce que moi, je me dis quoi? Si on regarde l'histoire aujourd'hui, si notre pays se retrouve dans des conflits tellement énormes, c'est également, on peut voir les cas de 1994, quand le Rwanda a été menacé avec les génocides, et nous étions obligés par la communauté internationale des Nations Unies que nous devons accueillir les Hutus qui se retrouvaient au moins dans une condition difficile dans leur pays et dans le cas du génocide. Mais sinon, à notre accueil là, nous avons pu au moins accepter qu'ils puissent se retrouver dans notre pays. Mais sinon, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans des conditions que nous ne savons pas nous en sortir parce que nous avons exercé notre esprit d'accueil ou humanitaire et aujourd'hui, ça nous paye cash parce que les conflits qui se passent à l'Est, c'est également une des raisons par rapport à tous ces gens qui, aujourd'hui, ils sont venus du Rwanda et puis ils se sont installés dans ces coins de notre pays et ils sont là, ils commettent encore des désolations avec notre population et les Congolais ne savent pas se retrouver, ne savent pas s'en sortir. Il n'y a que des guerres qui continuent et ces aides humanitaires qui arrivent. Et est-ce qu'il faut toujours apporter ces aides humanitaires ou alors chercher d'abord à ce qu'il y ait la paix qui sera bien permanente? Et cette population n'aura pas besoin de l'aide, aura besoin au moins de se calmer, de travailler et puis de se prendre en charge. C'est ce qui est important. Il faut toujours de penser au moins à connaître des préalables, si ces organisations internationales peuvent apporter combien. Ils peuvent apporter pour un temps, mais sinon ça va prendre combien de temps? Ça peut prendre quelques temps après, mais la population, elle va continuer à vivre comment? Parce que nous allons nous retrouver toujours dans les mêmes conditions encore que nous étions avant. Et moi, j'étais en train d'ailleurs d'exagérer dans mes réflexions, en train de dire que
je vous ai vu sur la page Facebook, vous avez dit, Trésor, que vous avez un peu plus exagéré en disant que les organisations internationales souhaiteraient qu'il y ait des crises et comme ça, ils pourront justifier leur présence permanente dans les différents pays. Mais je crois, si vous avez suivi déjà plusieurs débats dans ces émissions, il y a les représentants de ces différentes organisations qui disent n'ont pas vocation à rester éternellement dans des pays. Mais votre réflexion quand même est importante. Vous dites qu'il y a un moyen de cultiver la paix durable. On n'aura pas besoin de voir ces personnes qui se déplacent pour attendre de l'aide humanitaire. Et là, il faut agir en amont. Bill, tu le disais tout à l'heure, la lutte contre l'insécurité, les conflits armés, les conflits politiques qui sont souvent à la base des déplacements de populations. Merci beaucoup, Trésor, d'être avec nous. Merci pour votre intervention. William, vous êtes à Colusi, dans la province de Lualaba. Bonjour, William.
Oui, bonjour, M. Durand, bonjour à la démocratie.
On vous écoute, William.
Oui, la situation de l'aide de cette aide humanitaire, c'est un problème qui faut changer. Le problème ne sera pas la solution, c'est le don. Il faut lutter contre les problèmes qui sont à la base, comme l'agent social. Qu'est-ce qui est à la base? Pourquoi les déplacements massifs? Pourquoi des désordres? Alors, dès que vous terminez ce problème-là, on peut changer la distribution. Le problème aussi de la distribution, la population, parfois on peut changer les organisations sur la race, c'est à la population. La population ne bénéficie jamais, ne bénéficie pas à la totalité, on peut se dire ce qu'il veut pour donner à ces gens-là. Les dirigeants qui sont en amont et partout, ils vivent en compte, c'est pas ça dans l'histoire.
Et là, William, vous avez évoqué les cas de l'efficacité dans la distribution de l'aide. Il y a Bintou qui a évoqué là, les cas de conscience tout à l'heure. Vous estimez que des fois, il arrive que les bénéficiaires ne puissent pas entrer en possession de ce qui est arrivé comme aide. Mais dis-moi, vous avez évoqué la lutte contre les causes, n'est-ce pas, de ces déplacements des populations. Vous avez déjà les autres qui ont évoqué la paix durable ainsi que la lutte contre le conflit et les guerres. Merci beaucoup, William. Rejoignez-nous si vous avez besoin d'intervenir au 081-890-6315. Mais les pages, le débat, comme je le disais tout à l'heure, c'est sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Alain Bolodjoua nous a écrit en disant ceci: il faudrait reconnaître que ces statistiques avancées viennent renforcer celles de l'enquête 1, 2, 3 du PNUD qui font état d'une frondeur de pauvreté estimée à près de 70%. Ce qui sous-entend que 7 ménages sur 10 sont des pauvres avec une sévérité allant au-delà des 50. Ce qui atteste qu'il n'est pas facile d'affranchir les Congolais de leur pauvreté chronique et déshumanisante. Et ajouter à cela les crises armées récurrentes qui poussent la population dans l'errance. Devant ce tableau sombre, aucune solution palliative et conjoncturelle ne pourrait y remédier car le problème apparaît fondamentalement de nature structurelle. Romain Kasongo assistait c'est une urgence donc des courts termes développés et durables donc à long terme. Alors pour lui, il dit jusqu'à quand on va être assisté au regard de toutes ces années que les missions humanitaires restent dans notre pays, nous risquons de vivre continuellement sans connaître le développement durable. C'est donc ce paradoxe qu'il faut résoudre. Il faut que les guerres entretenues par les multinationaux puissent cesser. Il faut mettre fin à l'insécurité et c'est de cette façon qu'on peut arriver à mettre fin à ces besoins d'assistance humanitaire à tout moment. Chérubin Tchamala, qui nous écrit des Kananga, lui dit ceci: si on assiste des personnes, c'est quand il y a conflit armé et d'autres conflits, mais il peut y avoir aussi des problèmes de catastrophes naturelles, mais tout cela conduit à la pauvreté. Alors, ce que l'ONU devait faire, c'était de pouvoir assister des pays comme la RDC à lutter pour la promotion de la paix et ainsi que la stabilité qui pourront ainsi amener la croissance économique ainsi que la lutte contre la pauvreté. La fin de la guerre veut dire également la fin des personnes déplacées. Et Kevin, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour Kevin.
Bonjour Radio Kabi, bonjour à tous les auditeurs de la Radio de la Paix, plus particulièrement à ceux de la ville de Mbandaka.
Et vous avez dit la solution en termes de crise humanitaire, c'est plus préventive que curative. Ça veut dire chercher de l'aide pour assister ceux qui sont en déplacement, c'est curatif, mais il faut plus agir en amont.
C'est ça, c'est pourquoi j'avais dit c'est préventif. Étant donné qu'on ne doit pas, sur les 7,5 millions de personnes estimées qui doivent pouvoir bénéficier de ces aides humanitaires, ajouter d'autres. Étant donné qu'à l'heure actuelle en RDC, nous sommes dans une crise déjà en gestation qui pourra aussi engendrer des crises encore très très graves. En fait, la question fondamentale qu'on s'est posée est celle de savoir les préalables pour arriver à assister de manière efficace les 7,5 millions de personnes, mais moi je vais au-delà pour dire qu'en RDC, pour ce qui concerne cette journée, la RDC doit plutôt savoir comment gérer la situation politique de l'heure qui est en état d'exclusion et qui peut engager d'autres crises graves. Vous voyez aujourd'hui, que ce soit l'opposition ou la majorité, on veut s'approprier de l'article 50 de la Constitution, ce qui peut naturellement causer une guerre civile ou occasionner des déplacements sur le plan interne ou sur le plan externe. Ça constitue également une charge pour les bienfaiteurs, pour les ONG qui interviennent en termes de aides humanitaires. Vous voyez, c'est déjà un problème. Donc, on a déjà les 7,5 millions de personnes estimées, mais à l'heure actuelle, il faut plutôt chercher comment remédier à la crise, parce que c'est de la crise souvent que découle la question d'aide humanitaire. Nous avons aujourd'hui la Syrie, par exemple, il y a la Libye avec la ville de Sirte, il y a l'Afghanistan et autres qui ont beaucoup plus besoin des aides humanitaires, plus que la RDC. La RDC est devant une crise qui pourrait être remédiable si les politiques se mettent d'accord sur certains points. On a des discours du genre, j'avais dit dans des émissions précédentes, le peuple doit prendre son destin en main. voyez, c'est que ça donne déjà. C'est-à-dire que ça peut engendrer d'autres crises, ça peut engendrer des guerres civiles. Alors que les politiques, aujourd'hui, on doit savoir que sur des matières qui sont purement politiques, on ne peut pas dire que c'est le peuple qui va prendre les choses en main en sortant par exemple dans la rue. Parce que les politiques sont là. Ils doivent plutôt être responsables pour prendre des solutions adéquates et remédier à ces crises-là qui sont en gestation. Aujourd'hui, le peuple peut par exemple sortir sur des questions sociales ou économiques. Voyez-vous, en France déjà, en matière de loi de travail, pour ce qu'on avait fait. Mais pour des questions qui relèvent des politiques, de leurs compétences, des questions hautement politiques qu'on peut résoudre facilement en se mettant autour d'une table. Pourquoi dire au peuple de sortir dans la rue pour trouver des solutions à leur place? Et qu'est-ce qu'ils font? Donc il n'est pas question aujourd'hui d'ajouter encore en plus des 7,5 qu'on estime d'autres personnes, voilà.
Et d'ailleurs, je le disais en introduction que la plupart de toutes ces crises humanitaires que le monde a connues ces 25 dernières années avec l'accroissement des personnes déplacées, les grandes causes, ce sont les conflits politiques, les conflits armés, et vous estimez que déjà en RDC, la situation politique tendue que nous traversons peut facilement ajuster à ces 5 millions de personnes, à ces 7 millions de personnes, d'autres qui auront besoin de l'aide humanitaire. Et vous estimez qu'il y a la responsabilité de politique pendant une période comme celle-ci à pouvoir juguler la crise, à pouvoir discuter pour éviter que, déjà, ceux qui se sont déplacés, qui ont besoin de l'aide humanitaire sont nombreux, qu'on ne puisse pas ajouter d'autres. Vous avez rejoint les amis qui ont pensé que le travail doit se faire en amont plutôt que de pouvoir gérer les conséquences après. Merci beaucoup, Kevin Mavé. Vous êtes à Kananga. Bonjour. Mavé, vous êtes avec nous des Kananga.
Bonjour, bonjour aux milliers de personnes qui nous suivent présentement à travers le monde sur Radio Kapi.
On vous écoute, Mavé.
En fait, avant de commencer, j'ai saisi cette occasion pour, en tant que vote patriote congolais, pour présenter mes sincères et émotives condoléances à toute la population de Beni en général et à toutes les familles victimes du dernier massacre perpétré chez eux en particulier. En effet, pour revenir au sujet du jour, nous devons rappeler que généralement, c'est que peut-être le premier préalable pour les pays dont le besoin en assistance d'aide humanitaire paraît très sensible et très visible, c'est d'entretenir des coopérations avec les structures qui œuvrent dans les secteurs d'apport d'aide humanitaire. Je pense que cette franche coopération peut de manière permanente stimuler les volontaires à fournir des moyens possibles pouvant aider leurs populations respectives. Pour les cas de la RDC, il faut souligner que le gouvernement semble être trop élastique et il reste insensible à cette question. Il n'a jamais appliqué de certaines stratégies pouvant préalablement attirer les humanistes de venir en aide à des milliers de Congolais qui, certainement, cherchent à leur venir en aide. Donc, j'interpelle les autorités gouvernementales à s'impliquer régulièrement et subjectivement à la facilitation d'appels d'aide humanitaire. Ceci serait une meilleure préalable pour assister ces personnes. Mais il faut aussi signaler qu'il ne faut pas que le gouvernement attende que des massacres arrivent au peuple congolais pour qu'on vienne à la recherche d'aide. Les peuples doivent être protégés par les gouvernements qui sont censés garantir la sécurité de ce peuple-là, qui nous connaissons, nous déplorons le malheur que connaissent nos compatriotes de Beni aujourd'hui. Alors je pense que de tout ce que j'ai souligné, ça sera une des meilleures pour éradiquer et ne pas revenir toujours dans des mêmes...
Et que vous avez évoqué l'implication du pouvoir public dans l'assistance humanitaire, c'est d'abord une affaire interne. L'OTIA et les autres intervenants extérieurs viennent en appui. Vous estimez que le problème d'abord c'est l'implication du pouvoir public du pays comme de la RDC à pouvoir assister sa population et la protéger et après et savoir comment collaborer avec les organisations internationales d'assistance humanitaire. Et rappelons quand même qu'il y a plusieurs fois les populations qui ont besoin d'aide dans les provinces de l'Est du pays n'ont pas été des fois assistées. Pourquoi? Parce que les humanitaires n'étaient pas en mesure de se rendre dans ces zones à cause de l'insécurité. Ils ont été pris à partie par des groupes armés. Et vous estimez que c'est de la responsabilité du pouvoir public de pouvoir créer un cadre de sécurité et d'aider et collaborer avec les humanitaires. Merci beaucoup.
Certainement.
Oui, merci beaucoup, Mav, de nous avoir appelé de Kananga. Nous avons Roger Fataki qui dit ceci. D'après moi, j'estime que pour arriver à assister ces millions de personnes de manière efficace, il faudrait d'abord les identifier, connaître leurs problèmes, parce que tous sont des déplacés, mais ils n'ont pas le même problème. Les regrouper selon leur âge, leur sexe, voir ceux qui sont dans la misère la plus avancée et ceux qui peuvent être encore forts. Pour ceux qui ont de force, des jeunes par exemple, on peut trouver des emplois à leur donner en fonction de leur capacité. Les femmes enceintes ainsi que les enfants, il y a moyen de pouvoir les encadrer pour protéger leur santé parce qu'ils sont assez vulnérables, mais permettre aussi à ces enfants qui sont déplacés de pouvoir accéder à l'école et leur permettre d'avoir une alimentation saine. Mais tout cela ne peut se faire que dans la collaboration entre les organisations humanitaires ainsi que le gouvernement de la République démocratique du Congo. Voilà autant de messages sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Évariste, vous gardez la ligne, vous êtes à Bukavu. Je rappelle encore les contacts pour intervenir dans ces magazines consacrés à l'aide humanitaire et les préalables pour arriver à assister près de 7 millions de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire en RDC. Appelez-nous 081-890-6315.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Et nous avons Évariste qui nous appelle de Bukavu dans la province du Sud Kivu. Évariste, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour cher ami, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi en ce moment. Et merci de nous avoir associés également à cette émission.
On vous écoute.
Je voudrais attirer plus ma réflexion sur les préalables qui sont en même temps des solutions durables qui pourraient être envisagées pour réduire sensiblement ces besoins d'aide à travers le monde, car l'on apporte assistance aux pauvres et que l'assistance est synonyme de pauvreté. Selon moi, ces trois préalables complémentaires sont les suivants. 1. La vaccination pour prévenir les maladies graves qui rendent souvent les personnes vulnérables par paralysie ou par déformation de toute forme. 2. Le maintien de la paix à travers le monde afin de lutter contre les causes permanentes des conflits armés qui exposent beaucoup de personnes au déplacement perpétuel et qui les rendent nécessiteux de ces assistances humanitaires. 3. La bonne gouvernance qui passe par l'installation de pouvoirs démocratiques et responsables, ce qui empêcherait selon moi l'assistance humanitaire a continué d'être un fond de commerce où les vendeurs d'armes, vous allez le constater, et les pyromanes se feraient passer pour des humanitaires ou des sapeurs-pompiers. Bref, une bonne célébration de la journée mondiale de l'aide humanitaire pour ce 19 août, mais nous ne devons pas oublier de réfléchir sur ce maxime chinois qui dit: si tu me donnes un poisson, je le mangerai une fois. Mais si tu m'apprendrais à pêcher, je n'aurai plus faim. Alors là, je conclue en disant que plus nous serons toujours en train d'attendre l'assistance humanitaire des Blancs ou de tout pays d'où ça peut provenir, nous n'éviterons jamais d'être vulnérables par rapport à ce déplacement aux conséquences des combats que nous sommes en train de traverser jour et nuit. Et là, je me dis, vous allez constater que nous avons un gouvernement. Mais depuis que dernier ce qui est, le gouvernement fait semblant de ne pas apporter une quelconque aide, soit-elle des vaches, des ustensiles de cuisine ou autre, à la population déplacée aujourd'hui sur son territoire. Vous allez constater que ça, c'est vraiment déplorable. Le maintien de la paix, nous avons la MONUSCO ici au Congo, depuis bientôt 24 ans, monsieur Pierre. Depuis tous ces temps, ils nous assistent, ils voient comment nous souffrons, mais ils n'ont jamais réfléchi de façon transparente à pouvoir actualiser, pas encore nous parler de théorie, mais nous voulons des pratiques, qu'on nous amène vraiment une assistance qui soit adéquate et qui soit conséquente par rapport à la vie que nous sommes en train de traverser. Et lorsque nous parlons également de la...
Oui, Évariste, en parlant bien sûr du rôle de la MONUSCO, là vous avez épinglé ce qui a été évoqué tout à l'heure par les compatriotes autour du maintien de la paix, la prévention, et là c'est la lutte contre les conflits armés. Mais dans votre argumentaire, vous avez quand même évoqué l'instauration de la bonne gouvernance. Vous estimez que quand il y a de la bonne gouvernance dans des pays et les pouvoirs démocratiques, on peut moins en moins avoir des conflits armés qui, alors... profite à ceux-là qui voudraient aujourd'hui exceller dans les commerces d'armes. Et par conséquent, on va voir des gens qui vont se déplacer. Et dès lors que les gens sont dans le mouvement perpétuel des déplacements, ils sont de vulnérables et on ne peut pas construire. Bien sûr, il faut qu'on se le dise. Notre ami qui nous a écrit tout à l'heure parlait de on ne peut pas construire un développement durable tout en ayant des personnes qui vivent constamment, qui ont besoin de l'assistance humanitaire d'une manière constante. Content. Alors, et puis, dans votre intervention, vous avez insisté sur le rôle de l'État. Et là, vous avez déploré du fait que depuis plusieurs fois que les populations sont déplacées dans la zone des Béni à l'Est, et vous estimez que le pouvoir public n'a pas apporté assez d'aide intéressante à ces personnes. Merci beaucoup, Évariste. Jean-Pierre, vous êtes à Ouamba, c'est dans la province du Haut-Uele. Bonjour, Jean-Pierre.
Bonjour Pierrot, bonjour les auditeurs de la radio Café.
Et vous êtes d'une organisation non gouvernementale qui est effectivement impliquée dans l'assistance. Pouvez-vous nous parler de votre expérience, de quelle manière vous avez réussi et vous réussissez à pouvoir assister ceux qui sont dans le besoin?
Oui, en tout cas, merci vraiment. Donc ici, je vais peut-être rajouter, avant d'entrer dans le vif, le préalable que mes prédécesseurs avaient bien épinglé. En dehors d'abord de la sécurité, nous avons encore le deuxième préalable qui est l'accessibilité de la personne qui doit, ou bien du milieu où on doit apporter de l'assistance humanitaire. Mm-hmm. Et que chez nous, vraiment, si nous devons voir vraiment en profondeur, et que la sécurité est parmi les points clés pour qu'on puisse intervenir. Parce que là où l'aide humanitaire doit arriver, il faut qu'il y ait la sécurité. Et puis la sécurité, ce n'est pas celui qui amène l'aide humanitaire qui doit assurer la sécurité. Peut-être qu'il faut que lui n'a pas la connaissance du milieu. Et que quand la personne qui amène l'assistance, ils arrivent dans un milieu où il n'y a pas la sécurité et à la fin, on risque maintenant de transformer la mission humanitaire à une mission suicide. Alors que la personne qui amène l'aide humanitaire et les bénéficiaires, ces deux personnes ont vraiment le besoin de la sécurité. Et puis la sécurité, ça revient parmi la responsabilité de notre État. Ça, c'est de un. Et puis de deux, quand nous parlons de l'accessibilité, nous, on travaille dans le domaine agro-pastoral, où il y a de l'agriculture, c'est dans des milieux ruraux, urbains, et que ça ne se passe pas dans des milieux où la condition est vraiment favorable. Mais nous nous vivons dans beaucoup de problèmes. On peut avoir le besoin, par exemple, au niveau des dents, on doit amener peut-être des dents par la dents ou bien à Wamba. On se vit devant une difficulté où il n'y a pas de route. L'accessibilité devient impossible. Est-ce que lui qui doit amener des dents? Est-ce que c'est le nage qui va encore préparer ou bien tracer des routes et des défenses agricoles? Et que c'est lui encore qui va encore chercher, si pas de la sécuriser? C'est ça vraiment des problèmes. Et que l'accessibilité est que la personne qui doit bénéficier du don, doit aussi faciliter la personne qui amène l'assistance et non transformer maintenant une assistance humanitaire à une mission suicide. Et que quand on arrive, parce que dans nos activités, on peut arriver où on va assister une aide, un humanitaire, lui, n'a pas besoin de connaître votre tribu, n'a pas besoin de connaître votre parti politique ou bien votre couleur politique, raciale et consort. Mais on se retrouve dans une zone peut-être rebelle où on vous traite maintenant bien espion du gouvernement. Et quand vous sortez de cette zone-là, vous revenez chez le gouvernement, on vous taxe, et maintenant, donc, bien espion de la partie rebelle. Et que ce sont des grandes difficultés qui nous font que, et même notre assistance, parfois, ça tourne à dérisoire, et que même aujourd'hui, les humanitaires se font tirer par des soupçons inutiles qui ne cadrent pas avec leur mission. Parce qu'un humanitaire n'est pas une personne peut-être que, bon, bien que nous, les humanitaires, nous essayons aussi de tirer. On essuie de menacer comme ça, mais ça quand même, ça passe sous silence. Mais ça aussi, nous avons aussi besoin de la sécurité. Parce que là où nous faisons les champs, là où nous devons apporter des semences, là où nous devons apporter des produits vétérinaires, et que l'accessibilité, ce n'est pas maintenant à nous ça revient aussi à l'État. Et quand, comme mes amis venaient de dire, et que la gouvernance, l'État ne doit pas laisser la charge de la communauté ou de la population à la MONUSCO. La MONUSCO vient en appui, ou bien les humanitaires viennent en appui, et que l'État est à la responsabilité. En première ligne, et maintenant les autres viendraient que c'est lui qui peut baliser le chemin pour que l'aide humanitaire, pour que l'assistance humanitaire puisse arriver à être bon et que les bénéficiaires puissent en bénéficier. C'est aussi l'État. Et que quand nous disons ça à l'État, ce n'est pas parce que nous voulons être d'accord avec l'État, non, non. Ça, nous voulons seulement mettre la responsabilité, remettre l'État dans sa responsabilité. Nous demandons aussi à notre gouvernement de sécuriser aussi les humanitaires et sécuriser aussi les bénéficiaires de la personne qui doit bénéficier de l'assistance humanitaire. Aujourd'hui à Ben, là on a tué les gens et qu'il y a les aides humanitaires, les aides qu'on doit apporter là-bas. Est-ce que vraiment l'accessibilité est facile? On peut accéder là-bas. Ou bien si on doit aller par exemple à Wamba, où il y a des Mbororo, où il y a des Wamba, où il y a des Mbororo, dans le pays. Et que maintenant, l'État doit nous aider aussi. Et nous transformer maintenant notre pays en un réservoir de tous les groupes rebelles de tous les pays somaliens, tchadiens, rwandais, ougandais. C'est comme si notre pays maintenant est devenu un réservoir.
Et là, Jean-Pierre, vous avez relevé la dimension de la prévention, comme ça a été dit par Kevin tout à l'heure. Et vous estimez qu'il revient d'abord à l'État congolais de pouvoir assurer d'abord la protection de personnes assistées et des humanitaires qui travaillent, mais aussi le développement de infrastructures nécessaires qui puissent permettre à ce que les gens soient assistés. Mais rappelons que cela a été considéré aussi comme une priorité lors du sommet mondial de l'humanitaire qui s'est tenu du 11 au 12 mai 2016 à Istanbul, en Turquie. C'est pour la première fois que ce sommet se tienne, où parmi les priorités, il y a cette question de la protection des interventions humanitaires qui a été relevée non seulement pour ceux qui sont assistés, mais aussi ceux qui amènent de l'aide. Et c'est là où le travail doit se faire en amont, d'une manière durable, comme le disait notre compatriote tout à l'heure, pour pouvoir lutter ainsi d'une manière plus efficace contre les crises qui font qu'on puisse se retrouver de temps en temps buter à ces problèmes de déplacement des populations. Merci beaucoup, Jean-Pierre, de nous avoir appelé des Wamba dans la province des Haut-Uele. Nous avons notre ami Évariste qui nous a écrit tout à l'heure qui dit ceci: il faut plus lutter pour éliminer les conflits armés, car beaucoup de personnes aujourd'hui qui se déplacent, c'est parce qu'il y a des conflits, que ce soit au niveau de la compréhension politique et au niveau des gouvernances. Et c'est de cette façon qu'on peut arriver à prévenir des cas de déplacement de population. 081-890-6315 pour intervenir en direct.
L'information se retrouve aussi tous les jours sur radioocapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Kiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radioocapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
19 août, le monde célèbre la journée de l'aide humanitaire. Nous sommes ensemble avec vous pour réfléchir de quelle manière et quels sont les préalables aujourd'hui qui puissent accompagner d'une manière efficace l'assistance humanitaire en RDC. Auprès des 7,5 millions de personnes ont besoin de l'aide humanitaire cette année, selon OCHA. Et il faudrait pour cela mobiliser près de 690 millions de dollars américains. Mais plusieurs personnes qui sont intervenues et ceux qui sont dans ces débats qui se déroulent sur la page Facebook insiste sur le fait qu'il ne faut pas gérer les conséquences, il faut plutôt s'attaquer aux causes. Cela veut dire lutter contre les conflits armés, les conflits politiques qui sont à la base des déplacements des populations, et c'est de cette façon qu'il faut faire face à cette crise. Mais pour ceux qui sont déjà engagés sur terrain, il y a des compatriotes qui sont revenus sur la sécurité des humanitaires, la sécurité des personnes assistées, ainsi que l'accessibilité des sites. Et ça, c'est dans la responsabilité du pouvoir public, pouvoir assurer et la sécurité des sites où les déplacés se trouvent, mais aussi la sécurité de ceux-là qui sont engagés dans l'action humanitaire. Yass, professeur, vous êtes avec nous des Colosies dans la province de Lualaba. Merci de nous avoir rejoints dans cet échange. Bonjour, professeur Yass, et bienvenue.
Bonjour, merci de m'avoir accordé la parole. J'ai dit que d'entrée de jeu, il faudrait considérer deux aspects. D'abord, l'aspect avant qu'il y ait des situations auxquelles il faut assister. Que c'est un problème d'ordre structurel. J'ai parlé de problèmes de sécurité et de paix comme gage pour toute action d'assistance humanitaire ou celle d'initiation ou de formation des masses nécessiteuses. Je vais donc dire que c'est très nécessaire que le climat sociopolitique soit stable pour qu'on puisse mieux assister. Et ici, je voudrais insister sur un aspect que on devra, dans la bonne gouvernance, penser à des structures, n'est-ce pas, d'assistance, des structures permanentes d'assistance ponctuelle. Donc, chaque fois qu'il y a une situation, que l'État ait en amont préparé ce genre de structures pour que ce ne soit pas toujours l'extérieur qui nous assiste. Quand je parle de problèmes de stabilité et de paix sur le plan sociopolitique, je pense aussi aux problèmes de bonne gouvernance. La justice distributive comme problèmes qui sont à la base, n'est-ce pas, des situations de guerre, de fuite, de déplacement, autant de situations. Mais il faudrait ici que je dise, donc nous ne pouvons pas assister lorsque nous ne sommes pas en mesure, au niveau local, lorsque nous ne sommes pas en mesure de produire plus. Et pour que nous produisions plus, il faut une stabilité, comme un des collègues l'a dit, il faudrait au départ qu'il y ait la paix, la stabilité, pour que la population ait le moyen de travailler pour se prendre en charge. Mmh. Il y a quelqu'un qui a abordé l'aspect de l'hospitalité. On a loué les Congolais d'être hospitaliers. Vous savez, l'hospitalité africaine, cette forme de solidarité, est très dangereuse. C'est que même quand on a un morceau de pain, par solidarité, hospitalité, on appelle tout le monde, on mange le morceau, il n'y a plus rien. Vous allez voir que les gens qui sont accueillis dans des familles d'accueil, excusez-moi cette répétition, vont se retrouver dans une situation où il y aura encore une crise qui va frapper. Il y aura des problèmes de maladie, parce qu'on a accueilli les gens, mais on n'a pas de structure d'accueil. On le fait par solidarité. Donc, autant de problèmes qui vont se poser. Donc, pour notre gouvernement, il faudrait, même à tous les niveaux locaux, que l'on pense à préparer des structures d'accueil et d'encadrement, et que l'on fasse de l'assistance humanitaire une culture dans le chef de tous les citoyens. De sorte que chaque fois qu'il y a une situation, que l'on intervienne, mais que l'État pense à organiser quelque chose de permanent. Voilà de près comment moi j'en
fais. Oui, mais professeur Ignace, vous avez quand même évoqué un point important. Cela veut dire que la question de la paix et de la stabilité, elle intervient dans deux volets. Cela veut dire en amont pour la prévention, mais aussi dès qu'on a déjà des crises et que les gens ont besoin d'assistance, il faudrait aussi que cette stabilité qui peut définir de mécanismes d'assistance de ceux qui sont déjà dans le besoin. Cela veut dire que la stabilité doit jouer le rôle en amont, mais aussi pendant qu'il y a déjà des crises.
Oui, pendant qu'il y a des situations d'assistance.
Mmh. Merci beaucoup, professeur Ignace, pour cette intervention. Vous nous avez appelé de Colosie dans la province de Lualaba, 081-890-63-15. Rappelons quand même que dans ce sommet, le sommet mondial de l'humanitaire qui s'est tenu en Turquie, il a été relevé que les valeurs humanitaires devaient être ancrées dans les questions des solidarités, des dignités et des cultures, dans l'ensemble de toutes les cultures, comme le disait tout à l'heure Kevin, mais qui déplorait aussi que ça n'a pas été bien géré en 94, avec tout ce qu'on a connu aujourd'hui Et comme situation, et les participants à ce sommet avaient aussi insisté sur la garantie de l'accès à l'aide. Notre ami Jean-Pierre venait de le dire tout à l'heure, lui qui est sur terrain, que plusieurs personnes se retrouvent dans des zones où ils ne peuvent pas être facilement assistés parce qu'on ne peut pas y arriver. Et les participants au sommet ont beaucoup insisté sur cela, mais aussi sur cette question de l'efficacité dans la définition des priorités pour arriver à assister ceux qui sont dans le besoin. Et Nassor, vous êtes à Kindu dans le Maniema. Bonjour Nassor et bienvenue.
Oui, bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capu qui sont branchés. Pour moi, je n'ai jamais été d'accord avec ces organisations internationales. Je sais que toutes ces organisations-là ne s'intéressent pas beaucoup aux griefs de la sécurité. Donc c'est ça une démarche que ces institutions pourraient d'abord commencer à régulariser. Parce qu'on ne peut pas apporter des aides au moment où il y a des troubles. C'est un peu difficile. Comment que la population va bénéficier de ces aides-là au moment où elles attendent des balles là? C'est un peu difficile. Tout ça, c'est pour les progrès de la sécurité. Ces organisations sont appelées d'abord à trouver une meilleure solution par rapport à la paix en RDC. Parce qu'on ne peut pas visiter un endroit où il y a des troubles. C'est très difficile. C'est pourquoi la population qui est victime de ce massacre-là, la population donc qui ont besoin des aides, ils souffrent là, ils souffrent. Ils n'ont pas encore des aides. Nous risquons encore de perdre un bon nombre de gens à cause de la famine. Parce que les organisations trouvent que c'est difficile d'aller visiter la population, je ne sais pas pourquoi.
Vous insistez beaucoup, Nassor, vous insistez beaucoup sur le fait que la sécurité doit être considérée comme une priorité dans la définition des stratégies de l'aide. C'est ce qui est relevé par les humanitaires, je le disais tout à l'heure, parce que vous estimez que dès lors que les personnes à assister se retrouvent encore dans les zones des conflits où ils sont pris en étau par des forces qui combattent, il sera difficile que ces gens qui sont déjà vulnérables et qui ne sont plus dans leur milieu naturel parce qu'ils se sont déplacés, ça sera difficile qu'ils puissent d'abord être libres pour travailler, mais aussi ils ne pourront pas recevoir cette aide. Et vous insistez beaucoup sur le fait que ce soit les humanitaires et toutes les autres organisations internationales qui travaillent dans l'aide humanitaire, ils devaient mettre l'accent sur la question des sécurités, parce qu'on a vu plusieurs fois les humanitaires arrêter carrément leurs activités dans un milieu donné à cause de l'insécurité, où ils ont été victimes, ils ont été attaqués, les convois ont été attaqués, et cela arrivait plusieurs fois à l'est du pays et dans d'autres régions du monde. Et comme ça, pour vous, la question de la sécurité, c'est une question très importante qui doit être considérée comme une priorité, comme un préalable très important pour pouvoir y arriver. Merci Nassor de nous avoir appelé de Kindu. Dieudonné, vous êtes à Kalemie, dans la province de Tanganyika. Bonjour Dieudonné.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute Dieudonné.
Oui, moi je suis comme la plupart d'intervenir derrière eux. Ils disent que ce n'est pas important d'attaquer les conséquences et de laisser les causes. C'est parce que la plupart sont en train de souffrir, manque d'abri et pour certaines causes nécessaires, ils sont victimes. Il faudrait commencer par résoudre les causes et après attaquer les conséquences. C'est ainsi que le gouvernement congolais prend en charge. Résoudre les problèmes des conflits armés qu'il y a dans la plus grande partie de la République démocratique du Congo. C'est par là qu'on saura éliminer le nombre de déplacés et de la plupart des gens qui vivent sans abri en République démocratique du Congo. Que de laisser chaque fois la charge aux humanitaires qui sont des gens qui ne viennent que pour un temps et qui, après 10 ans ou 15 ans, qui sait qu'ils pourraient rentrer chez eux et nous laisser dans laquelle.
Mais alors, de donner parce qu'il y a, vous avez dit qu'il faut s'attaquer en amont aux causes, tout le monde l'a dit, il faut la lutte contre les conflits armés, il faut mettre fin aux conflits armés, mais dès lors qu'il y a déjà des conflits, parce que dans notre pays, on a parlé de 7 millions de personnes qui ont besoin d'être assistées, cela veut dire qu'on est déjà en conflit, il y a déjà les gens qui se sont déplacés, et pour vous, d'une manière plus efficace, qu'est-ce qui peut être fait pour ces gens-là qui se retrouvent déjà victimes pendant ce moment que nous traitons ces sujets?
Bon, les gens qui sont déjà dans ces genres de conflits, il faudra chercher de quels moyens les sortir de ces conflits-là. C'est ainsi que connaît d'abord d'autres, sa population, et chercher par la suite les solutions que cela ne puisse lui arriver. Vous savez, nous ne pouvons pas rester parfois à dépendre de l'extérieur. Pourtant, nous nous disons souverains. Pourquoi la plupart des problèmes qu'on a ne se retrouvent qu'en RDC? Le Rwanda, pays voisin, n'est pas déjà des problèmes. La Tanzanie, l'Ouganda, pourquoi seulement en RDC? Nous avons été hospitaliers et nous avons aidé la plupart des pays en guerre. Voilà le problème que nous connaissons aujourd'hui. Et pour éviter cela, il faut d'abord répondre aux problèmes maintenant et savoir éradiquer ça après.
Merci beaucoup.
Les Angolais, qui, par la suite, pourraient nous poser des problèmes.
Merci de donner. Vous estimez qu'il faut aborder le problème en deux volets. Le premier volet, c'est la prévention. Ça a été évoqué par l'ensemble des compatriotes, mais aussi pour ceux qui sont déjà en difficulté, voir comment définir les stratégies pour les assister, mais militer plus pour éviter les conflits qui sont à la base du déplacement de la population. Merci beaucoup. Élie Lokwa, vous nous appelez de Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Bonjour, Élie.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Élie.
Oui, voilà, je crois sur cette thématique d'aujourd'hui, bon, je n'ai pas vraiment beaucoup à dire sur cet aspect, mais particulièrement, j'ai appellerai et j'interpellerai d'abord aux aides humanitaires de pouvoir aussi songer à des milliers d'euros. Parce que il y a certaines zones, j'ai celles qui les UNICEF, les vasifient aujourd'hui dans ce monde, qui aident la plupart des Congolais. Mais cette aide limite est toujours dans les milieux urbains. Tandis que voire même dans la plupart des territoires de non-fondation, il y a une concentration du peuple congolais qui se trouve ailleurs, surtout dans les intérieurs du pays. Mais lorsque les orphelinats, peut-être, les maternités, pour une meilleure scolarisation gratuite dans les milieux ruraux qui s'installent aujourd'hui dans notre pays, il y aura aussi nécessairement une aide humanitaire le plus dynamique. Mais tandis que lorsque on limite toujours à soutenir la population qui se retrouve dans les entités urbaines, sans pourtant songer, comme par exemple dans notre territoire de Bukavu, quand j'étais parti pour la vacance, j'avais trouvé une certaine difficulté du peuple par l'absence totale de la sécurité alimentaire. Parce que dans des périodes passées, j'avais vu des organismes tels que Répit qui étaient venus dans notre territoire pour s'installer en vue de songer à la population urbaine. Vous comprenez directement que l'aide humanitaire ne se limite toujours pas dans le milieu
Mais il faut rappeler quand même, Elie, si on peut vous garder, il faut rappeler quand même qu'il y a des partenaires multilatéraux de la RDC, il y a le Programme Alimentaire Mondial, il y a l'UNICEF, il y a d'autres agences du système des Nations Unies qui travaillent d'une manière permanente, que ce soit en milieu urbain, en milieu rural, pour une assistance ou une autre. Mais il y a aussi ceux qui se retrouvent en déplacement, qui sont par exemple frappés par des catastrophes naturelles, mais plus par les conflits armés dans notre pays qui se déplacent, qui ont besoin aussi de l'assistance. Mais rappelons quand même, Élie, que la plupart des compatriotes ont insisté sur le fait que le problème de besoin de la population, c'est un problème d'abord du pouvoir public congolais, Élie.
Voilà, je pense que moi, je n'ai pas vraiment une idée contraire, mais je rappelle tout simplement, parce qu'on ne songerait toujours pas à des milliers urbains, c'est ça. Même dans les conflits armés, prenons par exemple le cas de F. Aujourd'hui, quand je vois que j'étais un certain jour en communication avec un ami sur Facebook, qui m'avait totalement dit cette optique de soutien des aides humanitaires. Il me dit qu'à l'Est, on soutient toujours les gens qui se trouvent dans le milieu urbain sans pourtant songer ceux qui se retrouvent dans le milieu local, dans le milieu
périphérique. Voilà, merci beaucoup, Élie. Vous estimez que dans cette conception, il faudrait considérer l'ensemble des milieux. On sait que le pourcentage élevé de la population congolaise vit en milieu rural. Et quand on conçoit ces assistances humanitaires, il faudrait aussi considérer comme priorité ceux-là qui vivent en milieu rural. Docteur Richard, vous êtes avec nous. Vous avez un grand témoignage parce que vous avez travaillé dans l'humanitaire. Et nous, en bref, nous dégageons ensemble des pistes, des solutions pour arriver à assister efficacement à ceux qui sont en difficulté dans notre pays. Et en deux minutes, on vous écoute, Dr. Richard.
Oui, j'ai fait ce travail qui était beaucoup plus ingrat en retour parce que on n'a reçu aucune médaille de ce pays-là. Aucune. on n'a pas un papier du gouvernement de ce pays pour dire vous êtes venus nous aider. Ça, c'est un. Deuxième chose, je félicite le représentant de MONUSCO qui a jeté des fleurs à la RDC, réservoir des réfugiés. Mais qu'est-ce que ces réfugiés donnent aux Congolais? Les Mbororo sont armés pour tirer sur les Congolais. Aller chez les FDLR, c'était d'abord des réfugiés. Ils tirent sur des Congolais. Et loin, loin de nous, l'Angola, quand ce pays veut chasser les Congolais, lorsque nous savons que même leur président était réfugié ici, on viole les femmes, on dépossède tout le monde de tout, on bastonne et puis on chasse comme des chiens enragés. Qu'est-ce que la cotation de MONUSCO donne au Congo? C'est ça le grand problème. Nous sommes un bon réservoir, d'accord, mais qu'est-ce que nous recevons en revanche? Mobutu avait raison de dire à ceux qui ont pris les armes contre lui, alors qu'ils étaient des réfugiés rwandais, de dire, on m'a poignardé dans le dos. Le Congo est toujours poignardé dans le dos.
Et alors, vous estimez qu'il y a cette solidarité qui a été vantée, mais au contraire, vous estimez que cela ne profite pas à la population. Est-ce que vous êtes d'accord avec tous les compatriotes qui ont insisté beaucoup sur le rétablissement de la sécurité comme gage pour pouvoir résoudre toutes ces questions d'assistance humanitaire?
Exactement. Parce que cette minorité de gens qu'on appelle les dirigeants des pays, ce sont ceux, si je veux paraphraser M. Henri Conan de Dieu, qui massacrent le peuple pire que les colonisateurs et les poussent à aller en exil. C'est ça. La sécurité, ce n'est pas seulement je suis ministre des gardes du corps, mais tous ces gens qui me payent par leur impôt, comment ils vivent? Tous ces gens qu'on a égorgés à Béni, leur larme a été qualifiée de simple réaction émotionnelle. Vous voyez un peu ça? C'est ça les dirigeants.
Merci beaucoup, docteur Richard. Merci, on termine cette émission merci. Avec vous et nous disons merci à tous les auditeurs. Vous avez été très fidèles à nous pendant cette semaine pour intervenir et donner vos idées dans cet échange citoyen. Parole aux auditeurs. Merci à tous.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire parole aux auditeurs pendant cette semaine. Mimi Kindou était à la mise en onde, Nico Kalambay à la réalisation, Marcel Ngomombala, Tati Mapoukou, réalisation et gestion du standard. Pierrot et la musique vous a présenté ce magazine pendant la semaine sous la supervision de Julien Nyamouini. On se retrouve le lundi pour un autre numéro des paroles aux auditeurs. En attendant, nous vous souhaitons un agréable week-end en compagnie de Radio Okapi. Au revoir.